Dans très peu de temps, vous allez entrer dans un monde de passionnés. Certains pourraient les appeler les nouveaux druides. Ils transforment l'eau, le malt et la levure en un subtil breuvage que l'on nomme communément bière. L'abus d'alcool étant un danger pour la santé, cette émission n'est pas là pour vous inciter à en abuser, mais pour mettre en avant les acteurs locaux qui inventent avec amour de nouvelles recettes et travaillent sans relâche pour vous partager leur passion gustative à l'échelle d'un village, d'une ville, d'un département.
C'est tout un monde, c'est un vendredi sur deux à 17h et un dimanche sur deux à 11h sur Radio Bartas 107 FM. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Donc du coup, bienvenue à la brasserie de la Naine. Je suis Florent Gauthier, un des gérants et brasseurs de la brasserie de la Naine. Donc je vous emmène sur une visite de la brasserie et donc dans nos locaux sur Saint-Chély-d'Apché.
Tu dis un des gérants, vous êtes deux du coup ?
Alors on est encore deux, ma collègue s'en va bientôt, donc je vais récupérer la brasserie tout seul. Donc il va y avoir pas mal de changements, surtout en système de production, en fait réduire un petit peu les quantités de brassage. Le but c'est de maintenir la brasserie dans le long terme. Donc nous ici, alors dans la brasserie de la Naine, on avait fait un choix, donc on travaille sur du 900 litres fini, on travaille sur un style de bière qui est assez particulier, on n'aime pas l'amertume, donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'arôme de la céréale, donc chaque type de bière va être bien typé, entre une blanche ou en ambrée par exemple, parce que c'est vraiment la céréale qui va ressortir, c'est elle qui donne la couleur à la base. Surtout à partir de cette année, même déjà l'an dernier, on travaille sur des céréales qui sont très locales, donc on travaille beaucoup avec des céréales qui venaient d'Auvergne. Et là, depuis l'an dernier, on travaille avec un agriculteur qui fait pousser de l'orge en fait pour nous. Le but étant de travailler sur un circuit de plus en plus local. Donc c'est à 5 minutes de la brasserie, c'est entre Saint-Chély-d'Apché et le Mal-Dieu. Et cette année, il y a une production qui est un peu plus grande due à cette année. Et on va pouvoir faire malter. Presque 80% des céréales viendra en fait d'ici. Et le reste, on s'approvisionnera sur la malterie donc, qui est à Saint-Germain-Lambron pour avoir justement ce circuit local. Notre houblon, nous, venait du 44 jusque-là. Et cette année, il vient du 63, donc à côté de Clermont-Ferrand.
Du coup, le malt, il est produit par l'agriculteur. Il l'envoie à la malterie et toi, tu vas aller chercher à la malterie ?
Voilà, exactement, c'est ça. Donc jusque-là, cette année, on n'en avait pas d'assez grande quantité, donc on l'utilisait cru, en mélange avec d'autres maltes. Mais du coup, là, à partir de maintenant, le but étant de récupérer cette orge maltée. Toutes les céréales spéciales seront récupérées à cette malterie.
Tu as travaillé du coup avec eux pour savoir quelles céréales planter. Il doit y avoir des spécificités de céréales différentes sur l'orge, orges différentes.
Oui, il y a plusieurs variétés en fait qui existent. La première année, ils ont tenté sur un orge de printemps. Le problème qu'on a, c'est que ici, on va dire que la période est très courte. Et cette année, on a tenté sur un orge d'hiver pour pouvoir que l'orge ait bien le temps de grandir, de produire en fait. Et donc, ça change un petit peu et la production a été un peu plus grande sur ça. Donc oui, ça a d'abord été de trouver une variété qui convenait. Voir si aussi la qualité était bonne. L'an dernier, par exemple, on va parler sur d'autres termes techniques, mais il y avait beaucoup de protéines, c'était après des prairies. Et là, cette année, il est beaucoup mieux. Donc on verra ce que ça va donner sur ça. Nous, en amont, donc, le but du brassage, en fait, c'est d'extraire les sucres, parce qu'en fait, ce seront les sucres qui vont être extraits de la céréale, qui seront ensuite transformés par les levures en alcool, par fermentation, donc pour le principe de procéder de la bière. Donc en amont, on concasse nos céréales, on va faire chauffer de l'eau donc dans notre cuve d'eau chaude. Vous verrez, ils ont des noms qui sont vraiment adaptés au nom les noms de cuves sont associés à leur fonction. Donc on va faire chauffer de l'eau et on va arriver en fait dans notre cuve de brassage. Donc c'est la seule cuve qui est sur filtre parce que le but c'est de pas récupérer la céréale mais de récupérer les sucres et donc le jus sucré qui servira après, qu'on appellera mou par la suite. Donc on va être dans la cuve de brassage avec l'eau, les céréales et le brassage va commencer. Alors nous on travaille dans d'anciens tanks calés, donc on a revalorisé en fait des cuves en inox plutôt que d'acheter du matériel neuf. Les cuves de 1200 litres sont plus du tout utilisées ou très peu. Nous ça nous a permis d'utiliser du matériel qui était de bonne qualité. La seule problématique c'est qu'on brasse au fourquet, donc sur nos étiquettes vous y retrouverez toujours avec notre personnage, donc notre naine qui est en fait a toujours son fourquet en main, qui est vraiment l'outil traditionnel du brasseur en bois. Donc voilà, donc vous allez d'abord avoir le brassage qui va durer une bonne heure. En fait, le but étant d'extraire les sucres. Si vous voulez, en fait, les sucres qui sont dans la céréale, c'est de l'amidon. C'est une forme de stockage. Et le but du brassage, c'est donc de transformer, donc d'utiliser le principe de la plante et donc de transformer avec les procédés chimiques de la plante, les sucres, l'amidon est un sucre plus simple. Et donc ça se passe entre 63 et 65 degrés. Donc c'est une fourchette qui est très restreinte, mais en fait en dessous ça ne fonctionne pas et au-dessus on va les casser. Donc le but étant de rester à 65 degrés le plus longtemps possible. Le brassage va rester là pendant une heure. Une fois que c'est fini, on fait des tests pour voir s'il reste de l'amidon ou pas. On fait une recirculation. Ça permet en fait de ce que les farines soient qui sont passées en dessous repassent au-dessus. Comme ça, l'eau pourra filtrer à travers donc les farines, les céréales et le filtre. Et donc, on récupérera que le jus sucré, donc le mou, par la suite. En sachant que les céréales donc, qui sont utilisées, on ne récupère pas donc, tout ce qui est fibres, etc. C'est un agriculteur, enfin des agriculteurs qui vont venir les récupérer pour l'alimentation de leurs bêtes. C'est un aliment en fait, de choix pour ça, parce que vous avez vraiment un fort apport en pas du coup pas de sucre, il n'y en aura plus, mais du coup en protéines, fibres. Et c'est un aliment, surtout l'hiver, qui est chaud aussi. Donc certains animaux aiment beaucoup, donc brebis, cochons, on a eu des fois quelques vaches aussi, et les poules.
Du coup, très peu de déchets.
Voilà, le but étant nous de réduire un maximum les déchets, on le verra aussi par la suite, histoire de la revalorisation de l'eau, et on essaye d'avoir un espèce de circuit qui va servir après pour le reste. Une fois le brassage fini, on va transvaser donc dans notre cuve d'ébullition. Là, le but, donc nous, on a une grosse résistance dedans, ça va être de monter la température en ébullition. Donc on va passer de 65 à 95, donc on a l'avantage d'être un peu en altitude, donc ça réduit aussi le degré de température qu'on doit atteindre pour l'ébullition, et aussi la densité hein, qui fait sur ça. L'avantage de cette période-là, c'est que ça va permettre de stériliser en gros notre mou, parce qu'avant sur les céréales, vous avez champignons, bactéries, levures, etc. Et en fait, nous, on veut que le milieu soit propre pour nos levures. Et donc du coup, cette période d'ébullition va durer une heure. C'est la période aussi où on va rajouter les houblons. Le premier houblon qui va être là pour l'amertume et toutes ses propriétés. Et le deuxième houblon, en fait, qui va être là pour les arômes. Donc en fait, le choix des céréales pour la couleur et pour le goût va être dépendant de ce qu'on veut faire, mais les houblons vont aussi dépendre de ça. Donc plus vous voulez d'amertume, plus vous laissez longtemps, plus vous avez des houblons, en fait des variétés qui sont plus amérisantes sur ça. C'est la bonne période, par exemple, on fait une bière à la gentiane. La gentiane, c'est terreux, c'est de la racine, hein, donc du coup, non la brosse, mais cette période-là permet en fait de plus ou moins enlever tous les pathogènes qu'on a sur notre racine de gentiane à ce moment-là.
J'ai vu des brasseries qui chauffaient par en dessous avec des réchauds. Là, du coup, c'est une résistance à l'intérieur, ça va changer quelque chose ?
Non, nous on est en électrique parce que du coup d'un point de vue sécurité c'était plus intéressant, surtout sur les tanks à lait. Dès que vous commencez en fait à travailler au gaz, il faut dépiauter les tanks à lait parce qu'il faut enlever tout l'isolant qu'il y a dessus. Voilà, donc après c'est le choix de chaque brasseur. L'avantage de l'électrique c'est que vous n'avez pas de flamme, voilà pourquoi on était aussi parti sur ça. Et après, c'est juste le nettoyage des résistances qui est un peu plus complexe, on va dire, sur ça. Pas de risque de bouteilles de gaz qui tombent en rade, hein, concrètement. Après, c'est vraiment un choix de chacun et aussi des disponibilités que vous pouvez avoir. Nous, on avait le système qui faisait que l'électrique s'y prêtait bien. Et voilà, la seule différence, c'est que, par exemple, on ne chauffe pas notre cuve de brassage. On est ce qu'on appelle en monopalier. On va rester à 65 du fait qu'on ne peut pas mettre de résistance avec nos céréales, sinon ça va griller dessus, caraméliser. Donc c'est vrai que jusque-là, on n'a pas trop de problèmes en fait, d'hygiène, vu qu'on va avoir une espèce de stérilisation de par l'ébullition, même si chaque cuve en fait, va être nettoyée, désinfectée avant chaque utilisation. Et en fait, une fois l'ébullition finie, il faut savoir que déjà, on met 1h40 pour monter la température jusqu'à 95, 1h ensuite d'ébullition. Une fois que c'est fini, il va falloir refroidir rapidement et en fait tout va être en circuit fermé. Le but étant de ne pas avoir accès en fait à la bière pour limiter un maximum les contaminations qui peuvent venir de l'air ou même les contaminations qui peuvent arriver de vous en fait au niveau bactérien. Et donc là le but à partir de maintenant, donc nous on travaille ce qu'on appelle en fermentation haute, donc nos levures vont travailler entre 15 et 25 degrés, donc on va pas les mettre à 95 degrés. Le but va être de refroidir rapidement la bière et donc pour ça on va passer à travers un refroidisseur à plaque qui est ici. Le but, c'est que vous allez avoir donc, ces différentes plaques, ça va être comme une ruche, hein, c'est plein de petites alvéoles. Vous avez un circuit d'eau, un circuit de bière, circuit d'eau, etc. Ça va permettre en fait, l'échange de température. On branche en fait, l'eau du réseau dessus, l'eau qui va arriver froide, la bière va rentrer de l'autre côté, et donc du coup, on va se retrouver avec en sortie la bière qui va sortir à 25 et l'eau qui va sortir chaude. Cette eau qui est chaude, nous, on la réinjecte dans notre cuve d'eau chaude d'origine. Elle va nous permettre en fait, de nettoyer. Tout le nettoyage va se faire avec cette eau. En fait, c'est une eau qui est chaude qu'on n'aura pas besoin de chauffer pour le nettoyage. Mais quand on fait un double brassage, ça permet en fait, d'avoir une eau qui a déjà chauffé, donc de réduire aussi la part énergétique qu'on va avoir pour monter la température.
Moins d'eau utilisée.
Voilà aussi, exactement. Donc le but étant de limiter un maximum ça. Et c'est vrai qu'entre le nettoyage et les brassages d'affilée, ça nous permet vraiment d'avoir ça. Ensuite, c'est envoyé dans les cuves de fermentation. Donc là, la bière va rentrer dedans. On va rajouter les levures. Et la fermentation va commencer.
Trois cuves en tout ?
Voilà, nous on a 3 cuves, donc on peut, donc sachant que la fermentation va durer 2 semaines et demie, on arrive au maximum à faire 5 brassins par mois, donc des brassins qui sont aux alentours de 900 litres finis. Donc on fait un roulement en fait en fonction de ça. Donc la fermentation produit beaucoup de chaleur, hein, donc si on veut pas que les levures se tuent elles-mêmes, on est obligé de réguler la température, donc ça c'est pareil, on a bricolé un tank à lait qui a un groupe froid fonctionnel. On fait tourner en fait des tuyaux d'arrosage autour des cuves et on va maintenir la température en fait aux alentours de 20 degrés. Pour la fermentation. Donc ça va durer 1 semaine. Au bout d'une semaine, on va mesurer donc la densité qui nous permettra de mesurer le taux d'alcool. Et donc à partir de là, on va passer ce qu'on appelle en garde. Donc on va diminuer la température, nous, sous 8 degrés. Donc on diminue beaucoup moins que peut-être d'autres brasseries, mais on s'est aperçu que sur nos bières qui étaient plus sur la céréale, on n'avait pas cette problématique-là, ça ne changeait pas trop le goût. Au pire, ça apportait un petit trouble, mais pas de problématique sur ça. Donc pendant 1 semaine, les bières vont rester à 8 degrés afin de faire sédimenter les levures, tous les dépôts qu'il pouvait y avoir dedans, et donc une partie de levure va s'endormir au froid.
Tu disais que le calcul de l'alcool se faisait avec la densité ?
Voilà, alors la densité, c'est un poids pour un volume. Concrètement, l'eau, ça pèse 1 kg pour 1 litre. Là, on va avoir, donc bon, il va y avoir quelques dépôts, et on va avoir aussi des sucres, et en fait, les sucres sont plus lourds que l'eau. Donc on va avoir une première densité. L'alcool étant plus légère que l'eau, en fait, en densité, on va faire un calcul entre quand il y avait les sucres, quand les sucres ont été transformés en alcool, donc on va avoir une densité qui va être moindre, et par calcul, en fait, on trouve le degré d'alcool.
Voilà. C'est pas la seule manière de calculer, si ?
Non, après, vous pouvez le faire sur des analyses au niveau alcoométrique, mais du coup, nous, c'est comme ça, comme beaucoup de brasseries, on mesure par densité, ça nous permet... Le suivi de la densité nous permet, en fait, d'avoir un suivi, de savoir où on en est. Par exemple, quand on finit le brassage, on sait qu'on a telle densité, on doit atteindre une certaine densité pour savoir à peu près la quantité d'alcool qu'on aura. Donc voilà, c'est la manière la plus simple qu'on a. Si on mesure ça avec un réfractomètre à l'avant et après on fait ça avec un densimètre, en gros c'est dans une éprouvette, on met un densimètre et avec ça on va pouvoir avoir la densité, donc du coup la teneur en alcool. Donc la bière reste au total 2 semaines et demie entre la fermentation et la garde, donc ça peut être des temps qui sont courts, mais voilà, nous c'est notre système qui est fait comme ça. Après 2 semaines et demie, donc on va goûter la bière, de toute façon on la goûte à chaque étape, le but c'est d'avoir un suivi, de savoir s'il n'y a pas eu de contamination, de savoir s'il n'y a pas de faux goût aussi, donc c'est à des étapes comme ça qu'on peut le savoir.
Ça arrive souvent ?
Non, ça n'arrive pas souvent, alors nous c'est arrivé qu'on ait des contaminations, donc on a eu problématique de levure contaminée, mais c'est arrivé après la mise en bouteille, et ça nous est arrivé aussi des fois par exemple, après embouteillage, il y avait une prise d'air dans certains tuyaux qui étaient mal vissés, et du coup une entrée d'air, une oxydation, et donc du coup ça développe des faux goûts, mais c'est pareil, ça a été plus tard. Et une des problématiques qu'on avait eues aussi, c'était lors des pénuries d'eau, on avait une eau qui était de moins bonne qualité. Et on s'est retrouvé en fait avec des bières qui, après 7-8 mois, avaient évolué, alors qu'elles étaient bonnes jusque-là.
Une eau de mauvaise qualité, ça dépend de son pH ?
De plein de choses. Ça va être des traitements qui ont été associés à ça. Pendant la période de sécheresse de 2022, en fait, on avait beaucoup de fonds de cuve, en fait, de l'eau qu'il pouvait y avoir, beaucoup de traitements. L'eau était rouge, par exemple. Donc, ça va avoir un impact sur le goût et aussi sur la vie. La bière reste une boisson qui est vivante. Et en fait, du coup, il peut y avoir une évolution et un changement sur ça. Comme on travaille avec l'eau du réseau, on est dépendant en fait du réseau pour ça. L'avantage qu'on a à Saint-Chély, donc nous on est certifié bio, on a une eau qui est de très bonne qualité, on n'a pas d'intrants ou très peu en fait dans notre eau, ce qui fait qu'on a cette grande chance. Après, la qualité de notre eau, on est ici sur un sol qui est granitique, donc le granit c'est des roches avec des gros minéraux. Les minéraux sont très peu arrachés par l'eau en fait dans les sous-sols et en fait on se retrouve avec une eau peu minérale, ce qui fait que vous avez moins de frottement de l'air lors de la formation des bulles. Et de ce fait-là, on aura une pétillance beaucoup plus fine peut-être que d'autres brasseries, mais avec plein de petites bulles. C'est vrai que comme l'eau fait partie de la majeure partie de la bière, nous, si on donne notre recette à un autre brasseur, on n'aura pas forcément le même goût. C'est dépendant en fait de votre eau. Une fois que la fermentation est finie et qu'on est d'accord avec son goût, on va passer du coup en embouteillage. Nous on refermente de manière naturelle, donc on va resucrer en partie la bière. Alors quand je dis resucrer, c'est du 7 grammes par litre, hein, c'est l'équivalent d'une cuillère à café dans 1 litre d'eau. Ça va juste permettre de donner à manger aux levures qui s'étaient endormies et qui sont encore vivantes, de refermenter en bouteille, et du coup comme la bouteille est fermée, on va avoir une montée en pression et c'est ça qui va former les bulles. Alors ça peut être n'importe quel sucre, nous on travaille en fait sur du sucre de canne non raffiné. Le fait de notre label bio, on a pas mal de problématiques sur ça, donc c'est du sucre de canne non raffiné. Et de la qualité va dépendre aussi de ça. Alors c'est rigolo sur des sucres comme ça parce que vous avez pas mal de dépôts aussi dedans. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire un sirop de sucre. Le sirop de sucre va permettre de stériliser plus ou moins le sucre aussi sur ça. Et donc ça va permettre aussi qu'il s'intègre bien la bière, le fait qu'il soit liquide, il va bien s'imprégner à ça. Donc du coup on va avoir une cuve de fermentation qui va venir au milieu de la pièce, qui va faire l'interface en fait entre nos fermenteurs. Donc on va ajouter le sucre, on va rajouter la bière, et du coup on va passer à l'embouteillage. Donc pour l'embouteillage, c'est la seule machine qu'on a en semi-automatique, on va avoir un étiquetage, un embouteillage derrière, capsulage. Après ça, donc les palettes sont remontées et on va envoyer en fait nos bouteilles en chambre de refermentation qui sont de l'autre côté de la brasserie. Et en fait, on va reproduire les mêmes conditions qu'en fermenteur, donc c'est-à-dire dans le noir et une température contrôlée entre 15 et 25. Travailler avant en fait avec une embouteilleuse gravitaire, donc on mettait les bouteilles, ça nous permet en fait de réduire le temps en fait d'embouteillage. On était à 7 heures d'embouteillage avant, maintenant on est à 2h15, 2h30 par brassin. Et ça permet surtout d'avoir l'étiquetage qui est avant, et en fait avant on embouteillait, enfin après l'embouteillage, on étiquetait par la suite. Donc voilà, il y a un gain de temps sur ça. Les bouteilles passent aussi moins dans les mains. Avant, il faut se rendre compte, vous preniez les bouteilles, vous les mettiez dans l'embouteilleuse, vous les enleviez, vous les mettez sur une table, on capsulait, on les reposait, on les reprenait, on les mettait sur une palette. Là, on les pose une fois, on les récupère à la fin, elles sont étiquetées, embouteillées et capsulées. Voilà, donc ça fait partie des investissements qu'on a fait par la suite et qui nous a permis d'améliorer, on va dire, les conditions de travail, on va dire sur ça, mais surtout la stabilité aussi des bières. Toutes les bières sont remplies au même niveau dans la bouteille. On injecte même une partie de CO2 en fait dans le col, ça permet d'éviter l'oxydation. De toute manière, les bouteilles dans la bière sont fumées parce que ça n'aime pas les UV, parce que ça oxyde le houblon et ça craint l'oxygène. Donc du coup, le but étant de limiter un maximum ce côté-là pour une longue conservation. Donc voilà, une fois dans la chambre de refermentation, donc la température va remonter, les levures vont se remettre en suspension, consommer les sucres qui sont présents et du coup, la pression va monter dans les bouteilles et former les bulles. Donc ça va rester 2 semaines. Donc nous, il nous faut 4 semaines et demie pour produire une bière. 2 semaines pourquoi ? La première semaine, vous avez donc la fermentation et production de bulles. Et la deuxième, les levures vont resédimenter et tomber au fond de la bouteille. Donc voilà, et après, on peut se permettre de les mettre en vente. Après avoir goûté, bien sûr, savoir s'il y a des bulles, s'il n'y a pas de faux goût, parce que ça arrive que vous ayez un développement derrière.
Là, je vois qu'il y a autre chose que des bières avec la naine dessus sur la table.
Alors oui, effectivement, on a travaillé cette année. Donc c'est une des nouveautés qu'on a fait. On travaille avec un apiculteur et on a produit un hydromel. Ça permettait de faire de nouvelles collaborations, parce qu'en fait on a tenté donc des bières par exemple au pain. C'est une bière qu'on fait avec des invendus de boulangerie, ça permet de revaloriser un déchet, donc en fait on remplace une partie des céréales par du pain. Dans le pain, en fait, les sucres ne sont pas du tout utilisés de la céréale, et c'est un vrai problème en fait, le gaspillage du pain. Donc ça nous permet donc d'avoir déjà ce côté d'avoir une nouvelle bière et un autre type de bière, et donc aussi un hydromel, donc d'utiliser du miel. Donc l'hydromel, c'est de l'eau, du miel et des levures, et donc de faire un produit avec ça. Donc hydromel qui est particulier, on travaille donc avec une levure de champagne, donc c'est un miel de forêt, donc déjà qui est très fort en goût, et la levure de champagne va permettre de tenir le miel dans la gorge, apportera une légère acidité en première bouche, voilà, comme si vous avez déjà bu du champagne. Alors ce qui s'est passé, nous, c'est en 2022, en fait on a agrandi la brasserie, on a récupéré une autre partie du local en fait qui était juste à côté d'une autre. On avait cette problématique, du coup le Nord-Lozère, on travaille surtout de manière estivale et à la période de Noël, et on était souvent en rupture de place, on arrêtait de brasser parce qu'en fait on n'avait plus de place pour stocker nos bières. Donc c'est vrai que là on a de grands locaux, parce que le but étant de produire un maximum l'hiver pour avoir suffisamment de stock l'été, parce que c'est vraiment la période où on va vendre le plus. Et donc ça nous a permis d'avoir beaucoup de place de stock. Donc il y a des périodes où ça paraît un peu vide, d'autres périodes où c'est plein et en fait on ne sait plus du tout où mettre nos affaires. Et il faut se rendre compte que là, si on regarde la brasserie, qu'on imagine qu'il faut mettre tout ça dans l'autre partie du local, ça serait pas possible.
Vous écoutez Tout un monde
sur Radio Barthes, 107 FM.
Je vais te demander de te présenter.
Alors moi, donc Florian Gauthier, donc on a installé la brasserie en fait en 2018. Donc à l'origine, on n'était pas du tout brasseur, on était en fait brasseur amateur, on avait d'autres métiers avec ma collègue. Donc il y a eu un moment où on a voulu changer de vie et aussi être son propre patron. Voilà, on n'a pas un ras-le-bol de la hiérarchie, des choses comme ça, mais ça permettait de travailler pour soi et de faire quelque chose qu'on aimait. Le fait d'être brasseur amateur, ça me permettait le côté innovation, toujours envie de faire quelque chose. En fait, moi à l'origine, j'aimais pas la bière. J'étais quelqu'un qui aimait pas du tout la bière. J'ai découvert pendant mes études, c'est mon maître de stage en fait, que comme j'étais non payé, qui me faisait travailler comme un bourrin, il m'emmenait boire des bières. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait certains styles que j'aimais. Et en fait, c'était les bières amères qui me dérangeaient. Bon, les goûts évoluent, hein, ils changent. Je le supporte quand même beaucoup mieux. Mais du coup, voilà. Donc, on a changé de tout au tout. Monter cette brasserie du coup en 2018. Le nom Brasserie de la Naine en fait est pas identitaire du lieu, C'était plutôt identitaire à notre univers culturel et musical, de manière officieuse. Manière officielle, donc, le personnage du nain est associé à les convivialités, festivités et à la bière. C'est un personnage en fait mythique dans les croyances médiévales et nordiques, en fait, qui était associé du coup à tout ça. Et on a choisi en fait le nom féminin, donc le mot naine. Il y avait une femme brasseuse dans la brasserie. À l'origine, enfin à cette époque-là, les femmes brasseuses étaient encore très peu représentées. Et du coup, on a fait le choix de le mettre de ce côté-là, vu que je travaille avec ma collègue. C'est aussi que c'est plus simple hein, de mettre en scène un personnage féminin plutôt qu'un gros nain barbu qui boit de la bière. Ça nous permet de changer sa couleur de cheveux, voilà, la mettre en scène sur ce côté-là. Et c'est ça qu'on voulait.
Côté évolution, tu disais que vous avez eu un agrandissement. On peut parler des travaux qui ont été faits ici pour faire de ce bâtiment une brasserie.
Alors oui, à l'origine, le local dans lequel on est, c'était un garage à moto. Donc déjà, il a fallu nettoyer et repeindre tous les murs, parce que voilà, sur ce côté-là, refaire tout le sol. On a installé donc une chambre de refermentation. Donc c'est beaucoup de bricolage hein, qui se sont passés dans la brasserie à son origine. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a commencé à développer, augmenter donc, le système de production. Et donc c'est vrai que le plus gros gap qu'on a fait, c'est d'agrandir le local pour installer notre embouteilleuse automatique, en fait, et pour pouvoir stocker et produire plus souvent l'hiver et donc avoir du stock suffisamment pour l'été. On s'est retrouvé les premières années, on a eu beaucoup de chance, hein, ça a bien fonctionné dès le début. Et c'est vrai qu'on se retrouvait en rupture de stock, on a été obligé de fermer, je crois que c'est 2019 et 2020, fermer la brasserie parce qu'on n'avait plus de stock. On était en plein mois d'août. Mais en fait, on n'avait plus rien à vendre, juste pour nos... On gardait ça pour les revendeurs avec qui on travaillait. Et en fait, on était quand même là, on était obligé de produire pour compenser en fait ce manque de stock. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi on était ouvert, mais qu'on ne vendait pas.
Comment ça se passe comme ça? Parce que ça demande au moins 3-4 mois de refaire un brassin entier, de revendre.
Alors oui, voilà, nous c'est 4 semaines et demie, donc c'est un mois. Donc à partir du moment où on est en rupture de stock, si on n'a pas prévu, c'est raté. Donc c'est vrai que dès qu'on est en rupture sur quelque chose et que ça n'a pas été prévu, bah, on va être en rupture sur un mois.
Ça va être quoi vos bières les plus vendues, qui ont le plus de succès?
Alors c'est dépendant des années, on a sur notre gamme donc blanche blonde ambrée, notre blonde en fait est un style de bière d'abbaye en fait, c'est une bière qui va être assez ronde, facile à boire sans amertume, ça va être un petit côté mielé, donc ça convient aux gens qui n'aiment pas la bière, mais vous restez sur une bière, là on est sur un brassin qui a plus de 6 degrés, avec son caractère sur la céréale, donc c'est vraiment celle qui est intemporelle, qui convient à tout le monde, et du coup c'est celle qui va se vendre le plus. On a notre ambrée, donc la naine rebelle qui a été dans le guide Hachette des bières une année. Donc on a eu la note de bière exceptionnelle, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais en fait ça a permis de montrer qu'on pouvait avoir une ambrée caramélisée, assez ronde, sans amertume, voilà, sur ce côté-là, et on a été très content d'avoir ça, donc elle aussi a une très bonne réputation. Après on a notre triple blonde, qui pour les connaisseurs qui l'aiment beaucoup, et la bière au pain. La bière au pain qu'on me demande, j'en ai plus par exemple en ce moment, c'est une bière qui est très particulière, qui a une texture particulière, mais voilà, ça clive un peu les gens. Et c'est vrai que c'est la bière identitaire de la brasserie. Les gens la connaissent, ils savent qu'on fait ça avec et qui marque un peu. Et après, là, la plus belle bière qui a été faite, c'est celle pour cet hiver. Donc, c'est la naine sauvage. C'est une triple ambrée fumée. Donc, on a fait une bière ambrée à 8,6 avec un côté un peu feu de bois barbecue. Et c'est vrai qu'elle a été très bien reçue. Le stock est tombé très, très vite et on continue de la demander. Et je pense que ça ne va pas durer longtemps.
La bière au pain, du coup, il vient d'où le pain?
Alors le pain, on travaille avec une boulangerie donc de Murat. Donc c'est du pain bio au levain cuit au feu de bois. C'est une bière qui sera jamais la même parce que c'est dépendant du pain qu'on récupère. Alors pourquoi Murat? Parce qu'en fait, on est sur le marché de Saint-Flour le samedi matin. C'est des gens qu'on voit là-bas et donc en fait, ils amènent leurs invendus de boulangerie en fin de semaine. On en a aussi de temps en temps sur la boulangerie de Charlie Narc, donc la Michamalou. Et du coup, je me précise aussi, la première, c'est du pain et des jeux. Donc voilà, on connaît les gens, c'est vraiment une collaboration sur ça. Et de temps en temps, on en récupère aussi à la Biocoop demande.
On parlait pendant la visite de faire le moins de gaspillage possible, de circuits courts, de réutilisation de l'eau. Qu'en est-il des bouteilles? Est-ce que ça t'est venu à l'esprit de faire des bouteilles consignées ou...
Alors ça, c'était un des premiers vœux qu'on voulait. On voulait faire de la consigne au tout début de la brasserie. On a eu une conférence au salon des brasseries à Nancy et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nous a expliqué que c'était moins écologique à ce moment-là de consigner des bouteilles et de les laver plutôt que de les faire fondre en fait, parce que le consignage, vous nécessitez beaucoup d'eau, produits, etc. Ça nécessite des transports, de l'envoyer pour laver, revenir, alors que c'est vrai que voilà, le système en France fait que La fonte du verre est bien réglée sur ça. Donc, on s'est repositionné ce côté-là. La problématique qu'on a eu aussi, c'est que ça a été la mode des stickers pour les étiquettes. Donc, au début, les étiquettes étaient indécollables. Donc, du coup, ça n'allait pas du tout avec le style que les laveries nous demandaient. Donc déjà, ça nous a bloqué. Maintenant, il y a des étiquettes. En fait, nos étiquettes ne sont plus vernies. Les cols arrivent à être hydrosolubles. Donc, du coup, d'arriver sur ce côté-là. La grosse problématique qu'on a, nous, c'est que les laveries les plus proches, ça va être Montpellier. Ils ne montaient pas jusqu'à Saint-Chély, jusque-là. Donc, du coup, envoyer nos bouteilles sales, aller à Montpellier pour les faire revenir. Du coup, en plus, ça ne fonctionnait pas sur ça. Il y avait un non-sens, en fait, écologique de ce côté-là. Moi, j'aimerais vraiment arriver à ce que les bouteilles soient consignées. Des gens nous les ramènent sur certains trucs. Ça nous permet d'embouteiller des tests et pas utiliser des bouteilles neuves. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment sur cette problématique d'avoir du verre, en fait, perdu. De ce fait qu'on est loin, la consigne fonctionne très bien quand vous avez un système de lavage sur place ou pas loin. Et dès que ça commence à être loin, en fait, il commence à y avoir un non-sens. Mais je souhaiterais réellement y arriver. On a essayé de monter des projets, d'essayer de s'intéresser, parce que vous avez localement des gens qui font du miel, des gens qui font des bocaux, que ce soit pour les plats préparés, viande, pâté, etc. Plein d'autres choses, en fait, où ça serait très intéressant d'avoir ça localement. Mais c'est pareil, on a cette problématique que c'est loin et ça dépend des quantités que vous pouvez avoir. Après, le souci qu'il y a aussi, c'est que nous, chaque brassin, c'est 2000 bouteilles. Et si on devait les laver à la main ou se débrouiller pour les laver, ce serait en fait un enfer pour avoir ça. Mais avec pour but, j'aimerais vraiment finir par arriver sur de la consigne.
En parlant de... Parce que ça prend du temps aussi de laver tout ça, si tu devais faire ça. Tu as déjà très peu de temps, j'ai l'impression, à la brasserie en ce moment. Tu es prof à côté ?
Oui, voilà, exactement. On a eu une année 2023 qui a été très complexe financièrement. Les ventes ont vraiment chuté. On a fait moins de 30% par rapport à d'habitude. C'est pas la vente directe parce qu'elle s'est maintenue. En fait, nous, on travaille déjà principalement en vente directe. Les gens viennent à la brasserie, on est sur beaucoup de marchés. 2 marchés minimum par semaine toutes les saisons et après les étés tout avec tous les événements. On travaille après avec que des revendeurs locaux, pas de supermarché. On est vraiment sur des choix sur avec qui on travaille. On ne veut pas être partout. Donc c'est l'histoire d'avoir une économie circulaire et de travailler avec des petites structures. Ça permet de faire de la bonne réputation à tout le monde, en fait. Tout le monde en parle. Nous, on va parler aussi des gens avec qui on travaille. Et en fait, on a ce côté-là. Et c'est vrai que cette année, la vente directe s'est maintenue, mais les professionnels ont beaucoup moins vendu. Donc ce qui fait que le stock n'est pas passé comme il fallait. Et ma collègue s'en va. Donc c'est pareil, il y a un côté financier sur ça. Et du coup, ne pouvant plus se payer, j'ai trouvé un autre travail. Donc oui, je suis professeur de biologie à côté. Et ça me permet en fait de subvenir à mes besoins personnels et donc de pouvoir continuer à travailler à la brasserie.
La DA des étiquettes, elle vient. Tu m'as expliqué que du coup c'était une naine pour tout ce que ça impliquait derrière. Qui c'est qui fait ces jolis dessins ?
Alors c'est vrai que nos étiquettes sont particulières parce que c'est pas un logo, c'est un dessin à chaque fois. Donc c'est toujours particulier quand on demande à notre dessinateur de nous faire une étiquette parce que entre ce qu'on réfléchit, soit quoi on pense. Lui, il sait pas du tout, il est pas du tout dans le truc. Et il faut que ça rentre sur une étiquette, parce qu'un dessin, c'est beau, hein, ça prend de la place, mais il faut que ça puisse rentrer dans l'étiquette, avec tout le texte qu'il peut y avoir. Donc, à l'origine et toujours, donc, on a un jeune qui était avant sur Toulouse, hein, qui maintenant est parti pour les études sur Paris. Donc, c'est lui qui nous a dessiné les premiers logos et dessins, qui a continué jusqu'à la dernière. On a juste eu une dessinatrice de plus, donc, qui était en école de dessin sur Langogne, qui nous a dessiné une de nos étiquettes, donc notre Pale Ale, parce que l'autre dessinateur n'était pas disponible. Donc voilà, c'est des jeunes qui sont passionnés de dessin, qui vont en faire leur travail. Ça leur a permis de faire des books pour leurs écoles. Et donc du coup, à chaque fois, ils ont été bien réceptifs à ce côté-là, au style qu'on voulait. Donc notre naine, tout est trop grand pour elle, donc que ce soit ses bottes, que ce soit le fourquet, des choses comme ça. Et d'arriver à la mettre en scène à chaque fois.
Toi qui n'aimais pas la bière à la base, qui a découvert que tu aimais ça quand elle n'était pas amère, aujourd'hui tu aimes quelle bière ? Est-ce que tu aimes toutes les bières que tu fais ? Est-ce qu'il y en a certaines que tu vas préférer ou préférer brasser ?
Alors il y a des bières que je n'aime pas. J'aime pas la bière blanche par exemple. Je n'aime pas ma bière blanche. Il faut savoir que la recette de la bière blanche, avant de la trouver, a été très complexe. Autant certaines bières que j'aime le style, ça a été très facile. Par exemple, la triple ambrée fumée, ça a été un one shot. Hein. Ça n'a jamais été essayé avant. Elle a été testée en 900 litres tout de suite. Et je me suis dit, on verra ce que ça donnera. De toute façon, j'ai fait les fins de reste de la brasserie, de ce qui restait en termes de céréales, etc. Donc ça a vraiment été une bière avec une vraie bière de Noël hein, sur les restes de brasserie. Donc c'est vrai que par exemple, bière blanche, je n'aime pas du tout. Donc la mienne, le temps de trouver la recette, il a fallu faire plusieurs tests. Donc en fait, c'est la moins pire que j'ai trouvée. C'est drôle en disant ça, mais c'est vrai. Et ça, ça fait partie des styles que je n'aime pas et où j'ai du mal à conseiller. J'essaye de les goûter dans les autres brasseries, mais ce n'est pas la chose dont je raffole. Certaines IPA, je commence à aimer ça de plus en plus, mais ça dépend lesquelles. Les sour, donc toute bière acide, je déteste ça. Et mes préférences vont vraiment sur les ambrées. J'aime vraiment la rondeur, le côté caramélisé et les triples. En fait, les triples, toutes les bières qui sont au-dessus de 7,5 de volume d'alcool, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on va développer le côté céréales. Plus vous avez de degrés d'alcool, c'est que vous avez eu beaucoup plus de sucre, donc beaucoup plus de céréales. Et donc, ça va vraiment développer une autre texture, un autre goût, et donc vous aurez beaucoup de rondeur. Et je crois que c'est sur ça sur quoi je m'oriente. Et c'est pour ça que cette bière d'hiver était une triple ambrée, parce que j'avais vraiment envie d'avoir le côté ambré que j'aime beaucoup sur une bière forte, et donc on ressort vraiment le côté céréales.
Il y a un style de bière qui revient de plus en force ces derniers temps, c'est la NEIPA. Tu t'es déjà intéressé à la fabrication ?
Alors, NEIPA, non, je m'intéresse. Alors, pourtant, j'aime beaucoup ça. J'ai des collègues où j'adore, je crois que c'est une des mes NEIPA préférées en Lozère qu'ils ont faite. Mais c'est vrai que l'ajout de fruits et l'utilisation de fruits dans les bières, j'ai vraiment peur sur les contaminations. Le fait d'intégrer des fruits à un moment donné, c'est pas la chose où j'ai envie de m'intégrer pour l'instant, enfin d'intégrer ça dans la brasserie, parce que j'ai vraiment trop peur de la contamination et je suis pas habitué à ça. Autant je pense et je suis capable de vraiment travailler une bière sur la céréale. Je sais très bien les arômes que vont apporter ma céréale, qu'est-ce que ça va apporter. Autant sur le houblon, c'est beaucoup plus complexe pour moi. Alors du coup, avec des fruits, n'en parlons pas. Après, j'ai déjà fait des tests pour moi avec des fruits. J'aime beaucoup la myrtille, mais c'est vrai que c'est juste pour ma consommation personnelle et essayer développer des choses autour de ça.
Est-ce que tu as une petite anecdote sur une de tes bières, sur sa façon d'être créée, sur des accidents, sur quelque chose ?
En anecdote, oui, parce que j'en ai trois qui ont été créées sans être testées. Et j'ai pas envie de dire à l'arrache, mais c'est un petit peu ça. La triple de base, c'est une bière qui a été faite, qui a été testée comme ça, parce qu'il fallait une bière pour Noël. Notre stout, le stout, on était en congé à ce moment-là. Je me suis réveillé en pleine nuit et je savais qu'en rentrant de vacances, il fallait brasser une bière parce qu'on était au mois d'octobre et qu'il fallait qu'elle soit finie pour fin novembre, donc le temps de commander les céréales, de brasser la bière. Donc en fait, j'ai dessiné la recette dans ma tête, je suis arrivé à la brasserie, j'ai commandé et j'ai brassé la bière comme ça. Et il s'est passé exactement la même chose pour la naine sauvage, donc la triple ambrée fumée. J'avais pas refait de commande de céréales, donc en fait j'ai vraiment récupéré les fins de ce qu'il y avait, j'ai fait une bière autour de ça. La recette avait été déjà écrite depuis longtemps, mais elle a été rechangée la veille, et la veille je ne savais même pas encore quelle levure et quel houblon j'allais utiliser. Mais voilà, ça donne des bières, au final les rendus sont très intéressants, où on a bien fait de réaliser ça comme ça.
Qui c'est qui valide tes bières ?
En termes de goût ?
Ouais, en termes de goût, en termes de c'est la bonne recette.
Alors déjà, moi il y a le goût, mon goût à moi, je valide mes recettes, mais c'est souvent les gens. Moi quand je sors une nouvelle bière, j'attends les retours des gens, je vends pas trop ça de la manière, oui vous allez voir, j'explique un petit peu ce que j'ai recherché, et souvent c'est les clients qui vont revenir, qui vont dire ah ça c'était vraiment bien, ah ça c'est moins bien, ça on l'a subi beaucoup avec la bière au pain. Les gens qui nous ont dit ah non j'aime pas du tout, j'aime pas la texture, la bière au pain en fait c'est, comme on en parlait tout à l'heure, c'est jamais la même recette parce que c'est pas les mêmes quantités, les mêmes pains, vous avez beaucoup de pain blanc, vous aurez beaucoup de blé, et le blé apporte de l'acidité, donc des fois elle sera un peu plus acide. Il y a des fois, ça va développer, c'est beaucoup de pain de seigle, beaucoup de pain de céréales, de pain complet, et on va être vraiment sur le côté toasté, céréales. Donc du coup, déjà, c'est dépendant de ça, mais ça clive les gens, et donc on a beaucoup de gens qui vont dire « j'aime pas du tout », et comme des gens qui vont vouloir ça. Et c'est vrai que non, on fait goûter à notre entourage, à des clients qu'on connaît bien. Ils ont la chance de pouvoir des fois goûter sur des tests quand on en fait, hein, vu que je n'en ai pas fait sur la naine sauvage, là, malheureusement il n'y a personne qui a pu la valider avant, mais certaines bières ont été validées en amont par certains clients, et sinon c'est souvent après quand les gens goûtent.
Vous écoutez Tout un monde
sur Radio Barthes, 107 FM.
C'est quelle bière du coup que tu nous as servi ?
Alors là, vu qu'il fait chaud, je me permets de proposer la Pale Ale qui sera, donc c'est la bière où on a travaillé sur le houblon. Gros changement, donc c'est une bière qui sera plus amère et fruitée, vraiment sur notre houblon. Donc on fait pas d'IPA parce que beaucoup d'IPA sont faites avec des houblons qui sont brevetés aux États-Unis. On travaille en fait en direct avec les agriculteurs et donc du coup on n'a pas accès à ces houblons-là. Donc c'est vraiment une bière qui sera un peu plus légère, pas du tout, qui va être très transparente, légère en texture et qui aura ce côté très rafraîchissant.
Ça se boit froid ?
Alors ce style de bière, il faut les boire à 4 degrés. Plus on va boire chaud, plus c'est la céréale qui va se développer. Et là, vu qu'on veut que ça soit le houblon et l'amertume, il faut la boire vraiment fraîche. Comme les blanches, et plus les bières sont fortes en alcool, plus on peut les consommer chaudes. Une brune, une triple, vous pouvez les consommer à 14 degrés sans problème. De toute façon, il y a tout sur nos étiquettes qui indique la température de service et les saveurs qui sont recherchées. Etienne ?
C'est intéressant. C'est pas si amer que ça pour une pale ale.
Bah, les pale ale sont un peu plus amers, mais ils ne sont pas non plus trop. C'est vraiment l'origine de ce qu'on entend souvent des IPA. Mais c'est pareil, c'est une amertume que moi je supporte. Je voulais que ça soit amer, mais pas trop. L'amertume en fait a tendance à désaltérer, c'est pour ça que ce sont des bières qui sont souvent plus estivales ou quand il fait chaud. Alors déjà en texture, on est sur quelque chose de très léger, on le ressent vraiment bien, là, la pétillance qui est très très fine. En bouche, on est sur un côté houblon, c'est un peu vert, donc l'amertume va être un peu sèche. Mais on va se retrouver avec quelques saveurs en fait un petit peu agrumes en fait qui vont arriver en fin de bouche une fois qu'on a avalé. Donc on aura vraiment d'abord cette amertume et ce côté fruité qui va venir en fait casser ce côté-là. Alors le mot pale ale en fait ale veut dire bière et pale veut dire du coup pâle. Et donc oui, souvent avec des céréales qui sont blanches. Ouais. C'est vraiment le style traditionnel anglais. Les Indian Pale Ale, donc IPA, donc c'était les bières d'importation en Nouvelle-Inde, donc l'Amérique. Et quand en fait les colons sont partis en Amérique, ils amenaient leur tonneau de bière, hein, sauf que les bières arrivaient contaminées sur place. Et en fait ils ont découvert que le houblon était antiseptique, et en rajoutant du houblon frais dans les tonneaux, ça permettait en fait de conserver la bière pendant le temps de trajet. Et les Américains ont ressorti à un moment donné donc, un style de bière de leurs racines, si on peut dire comme ça, qu'ils ont appelé du coup Indian Pale Ale. Et donc ces bières anglaises, les pale ale, sur le sol américain. Et c'est pour ça qu'elles sont donc le houblon infusé à froid dans les tonneaux. Et donc ces bières-là sont brassées en fait avec un houblonnage à froid dans le fermenteur. Donc la mienne n'est pas du tout ça, il n'y a pas d'houblonnage à froid.
Je vois que tu as fait aussi du coup à côté des petits sous-bocs et des shops de la brasserie de la Naine.
Exactement, alors les shops, c'est une mauvaise publicité parce que je n'en ai plus. Quand il y a eu l'augmentation du prix du verre, ils m'ont demandé le prix que je les vendais à la brasserie. Donc j'ai refusé d'acheter des verres pour pouvoir les vendre du coup plus cher et je n'avais pas envie de ça. Et les sous-bocs, en fait, c'est une artisane qui est sur le monastier, donc qui fait des jeux de société en bois, des nichoirs et des choses comme ça, qui fait les sous-bocs. Donc chaque sous-boc est en bois, donc ils vont être uniques parce que c'est dépendant du bois et du morceau qui est utilisé. Donc ça permet d'avoir un côté intemporel par rapport à des sous-bocs en carton. Il faut savoir qu'indépendant de notre volonté, ils sont devenus très recherchés par les collectionneurs parce que vu qu'ils ne sont pas partout, qu'on les vend, il y a vraiment le côté collection qui est ressorti. Donc on a des gens jusqu'en Belgique qui nous avaient envoyé des lettres avec de l'argent dedans pour qu'on leur en renvoie. Donc c'est assez rigolo et nous ça nous permet aussi de montrer un peu le travail de nos 7 personnes, donc c'est Caribou de Bois. Et c'est une belle collaboration aussi depuis le premier marché de Noël qui avait été fait à Saint-Germain-du-Teil en 2018, du coup avec elle.
On a très peu parlé de ta façon de distribuer les bières. Tu vas le faire surtout toi dans les marchés.
C'est ça, alors moi je travaille principalement en vente directe, c'était vraiment un choix de notre base. On voulait vraiment avoir un contact avec les gens. En sachant que ça a été arrivé plein de fois, que je suis arrivé devant des brasseries, qu'elles étaient fermées alors que je voulais acheter de la bière. Donc c'est vrai qu'on avait décidé que la brasserie serait ouverte du mardi au samedi pour que les gens puissent venir l'acheter quand ils en avaient envie. Bon, même si la problématique fait qu'en étant prof, il y a des fois j'ai cours, donc je ne suis pas tout le temps. Mais le but étant que la vente directe soit la première chose. Il faut savoir qu'on doit être à 60% de vente directe et 40% de revendeurs, en sachant que l'été, on doit être à 50-50, et par exemple, sur la période de Noël, on doit être à 80-85% de vente directe. Donc on priorise, et les gens priorisent vraiment ce côté-là. Ils viennent ici, ils viennent sur place, ils viennent sur les marchés. Et ça permet surtout en fait de parler du produit. Quand je suis sur le marché, il y a des gens qui me demandent « Ah mais vous êtes le brasseur ?» Oui, oui, c'est pour ça qu'en fait je peux vous expliquer pourquoi, parce que c'est moi qui ai fait les recettes, c'est moi qui l'ai embouteillé, et je sais donc quel goût est là et pourquoi elle est comme ça.
Et tu as fait le choix de ne pas avoir non plus un énorme espace dégustation aussi dans la brasserie ?
Alors déjà, je n'ai pas de licence, donc les gens ne peuvent pas boire de la bière dans la brasserie. C'était au début, on s'était posé la question. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me va. J'ai pas vraiment, je suis brasseur, je suis pas barman. Déjà, qu'en tant que brasseur, dans des structures comme les nôtres, on est brasseur, on est comptable, on est commercial, on est livreur. Et en fait, rajouter le côté barman ne me plaît pas. J'ai pas envie de gérer des gens sur ça. Et donc, ça me convient très bien, en fait, d'avoir que de la vente comme ça. Ça arrive que l'été, sur des événements, on serve de la bière. C'est arrivé qu'on fasse des événements aussi à la brasserie ou avec des licences en fait temporaires. Mais le système me convient très bien comme ça. C'est, voilà, comme je dis, je suis brasseur, pas barman.
Et en parlant d'événements l'été et de festivals, tu as des fûts que tu loues ? Enfin, tu as des tireuses que tu loues et tu fais des fûts aussi avec tes bières ?
Oui, exactement. Alors, je fais aussi donc fûts, location de tireuses. Alors, j'en fais très peu. Parce que le coût, alors déjà c'est moins intéressant et c'est surtout qu'en fait je préfère travailler avec de la bouteille et les fûts je travaille surtout avec des particuliers ou des associations. Le but pour moi c'est pas de faire que du fût, je préfère travailler avec des bouteilles, que ça ait une histoire de pouvoir les vendre. Faire du fût, alors c'est beaucoup plus simple, hein, fûter et choses comme ça, mais pour moi c'est moins intéressant. Et ça ne m'intéresse aussi moins, j'ai pas envie de faire d'événements en fait moi ou trop de gros événements. J'en ai fait au tout début et c'est vrai que maintenant je préfère les petits événements où je passe quelques fûts, c'est tout. Et c'est vrai que je préfère me prioriser sur la bouteille, je connais un peu plus la stabilité dans mes bouteilles, je sais comment ça se passe, que voilà sur un fût. Mais il y en a quelques-uns qui sont faits à chaque fois. Et on a des partenariats avec des associations sportives, entre autres, autour de Saint-Chély, qui prennent à chaque fois de leurs événements des fûts, aussi des événements culturels qui en prennent à chaque fois. Et après, des fois, quelques petites structures comme des gîtes quand ils ont des événements qui prennent autour de ça. Et les particuliers, c'est beaucoup de mariages et autres.
Là, on est passé sur l'Ambré. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ?
Alors du coup, la Naine Rebelle, moi, c'est vraiment comme ça que j'imagine une bière. On est vraiment sur donc, une Ambré, elle va être caramélisée. En fait, c'est une rondeur sans être sucrée, il n'y aura pas d'amertume. Et on aura en fin de bouche, en fait, un petit côté agrume qui va ressortir. En fait, la coriandre qu'il y a dedans va permettre de tenir en fait, la bouche après avoir avalé la bière. Donc pour moi, c'est vraiment la bière que je préfère, ce style-là. Et je suis vraiment content que de plus en plus, c'est celle que les gens priorisent.
Moi, elle me redonne vraiment un côté très sucré.
C'est ça, voilà. Le côté caramélisé a vraiment beaucoup de rondeur. Donc c'est vraiment la céréale. Pourtant, il n'y a plus de sucre dedans. Hein, mais c'est vrai que le mélange est top. Et en fait, on a beaucoup de gens, par exemple l'été, qui font sur des événements, sur des guinguettes, qui travaillent en fait avec cette bière pour faire, par exemple, du bœuf à la bière. Plutôt que de faire une carbonade avec une brune, sachant qu'ici on a quand même une très bonne qualité de viande, une brune ça va être beaucoup plus fort, le côté torréfié. Là le côté caramélisé va permettre de donner un côté sucré, donc ça va faire sucré-salé, un peu de rondeur en fait au plat.
Et oui, je remarque toujours les bulles fines que tu me parlais pendant la visite par rapport à l'eau. C'est différent mais agréable.
C'est ça, en fait, au lieu d'avoir une pétillance qui va éclater au palais, on est vraiment sur une pétillance qui est ultra fine, donc c'est vrai qu'on a la chance de pas avoir de bière qui sorte des bouteilles. La pétillance est tellement fine en fait qu'on aura rarement une bouteille qui va en fait vouloir sortir. Donc ça c'est avantage et en même temps bah, c'est léger en bouche, on va pas avoir ce côté-là. Et donc c'est vrai que par exemple des fois des gens qui boivent de la bière en pression, on cette impression, on se dit ah elle est pas très pétillante. Non, c'est vraiment dépendant de notre eau et ça montre vraiment en fait les différences qu'on peut avoir en fonction des territoires et c'est l'avantage des brasseries parce que ça va vraiment représenter un territoire.
Ok, ben merci beaucoup.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Dans très peu de temps, vous allez entrer dans un monde de passionnés. Certains pourraient les appeler les nouveaux druides. Ils transforment l'eau, le malt et la levure en un subtil breuvage que l'on nomme communément bière. L'abus d'alcool étant un danger pour la santé, cette émission n'est pas là pour vous inciter à en abuser, mais pour mettre en avant les acteurs locaux qui inventent avec amour de nouvelles recettes et travaillent sans relâche pour vous partager leur passion gustative à l'échelle d'un village, d'une ville, d'un département.
Tout un monde, c'est un vendredi sur deux à 17h et un dimanche sur deux à 11h sur Radio Bartas 107 FM. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.